Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire : Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
La messe chrismale qui nous rassemble ce soir à la cathédrale, frères et sœurs, au premier jour de la Semaine Sainte, constitue un des grands événements de notre Église diocésaine. Et je me réjouis d'ailleurs de voir que nous sommes nombreux chaque année à y participer, pour certains d'entre nous, à la découvrir pour la première fois. L'importance de la messe chrismale tient à ce que cette célébration concerne de manière visible, palpable, l'ensemble du peuple de Dieu autour de l'évêque. Elle n'est pas la seule manifestation qui donne à voir le visage d'une église particulière dans laquelle et à partir de laquelle, précise le Concile, existe l'église une et universelle. Elle n'est pas la seule célébration qui révèle le visage d'un diocèse, cependant, la messe chrismale est une des manifestations les plus claires, les plus concrètes d'une église diocésaine, dans le fait déjà que les prêtres renouvellent leurs promesses de fidélité aux engagements qu'ils ont pris lors de leur ordination, mais dans le fait plus fondamentalement que l'évêque y procède à la bénédiction des huiles. L'huile des catéchumènes, dont un certain nombre sont présents parmi nous, l'huile des malades de toute personne affectée par des infirmités, puis l'huile du Saint-Crème pour la quinzaine de personnes qui seront baptisées dans la nuit de Pâques afin d'être rendues semblables au Christ et remplies des dons de l'Esprit par leur confirmation à la Pentecôte. L'huile du Saint-Crème aussi pour Dominique Lay qui sera consacré en juin prochain prêtre de Jésus-Christ au service de notre Église diocésaine. En évoquant, comme je viens de le faire, ce que donne à voir la célébration de la messe chrismale, à savoir toute une diversité de situations personnelles, de cheminements dans la foi, une diversité de dons et de ministères pour l'édification du corps du Christ, une diversité d'activités, de services pour l'animation des communautés chrétiennes, sans parler d'une diversité de sensibilités, d'options qui traversent tout le corps ecclésial, il me semble que l'occasion est bonne d'insister particulièrement sur un point qui fait l'objet de nos quatre orientations diocésaines, la fraternité. La fraternité n'est-elle pas, comme je le lisais récemment dans un article, le nom propre de l'Église? Et l'auteur de fait remarquer dans cet article que les pères de l'Église ont pu affirmer que le Fils de Dieu, en se faisant homme, a pris notre fraternité, ou encore qu'il a revêtu notre fraternité, et qu'il est devenu ainsi notre frère en vie humaine. Mieux encore, disent les pères de l'Église, ils soulignent que le Christ nous a proposé de nous adopter comme frères et sœurs en sa vie divine par les sacrements. Dès lors, la fraternité n'est plus seulement une vertu humaine, si chère à notre République et pourtant si malmenée aujourd'hui, mais d'abord le don du Christ, rendant capable d'aimer jusqu'au don de nous-mêmes. Lorsque les premiers chrétiens ont accueilli la nouveauté apportée par le Christ, ils ont compris aussitôt que le message de Jésus introduisait dans les strates d'une société figée une autre manière de se regarder soi-même, une autre manière de regarder les autres. Ils y ont vu un germe de révolution, à la fois spirituelle et sociale. Et très vite, ils s'en apercevront lorsque des maîtres et des esclaves auront la surprise de se retrouver ensemble là où se célébrait l'Eucharistie, qui est par excellence le sacrement de la fraternité chrétienne. D'une façon passionnée et presque provocante, l'apôtre Paul affirmera de son côté à la communauté des Galates, où coexistaient des hommes et des femmes provenant aussi bien du monde juif que du monde païen, « Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes plus qu'un en Jésus-Christ. » Cette fraternité instaurée par le Christ et qu'il nous donne de vivre est une fraternité concrète, non pas à l'image d'une secte dont tous les adeptes doivent se conformer au même modèle sous l'autorité d'un gourou, mais un ensemble diversifié où l'on ne se choisit pas et où l'on peut reconnaître que ce qui nous unit ne vient pas de soi, mais d'un autre. Non pas à partir des lois de la chair et du sang, mais à partir d'une loi nouvelle, qui est un amour de réciprocité, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On raconte qu'un jour, du côté de Jérusalem, quelques rabbins quelque peu excités rêvaient de raser la mosquée El-Aqsa et le dôme du rocher, pour reconstruire le temple de Dieu qui avait été détruit par Titus en 70 après Jésus-Christ. Heureusement, un rabbin plus sage que les autres leur posa cette question. « Êtes-vous sûr que c'est en seul Dieu que Dieu veut reconstruire son temple ?» Et sans attendre réponse, il raconta l'histoire suivante. Deux frères avaient la même terre et se partageaient la récolte. L'un avait beaucoup d'enfants, l'autre était célibataire. Un jour, le premier, confiant dans l'aide que ses nombreux descendants lui apporteraient tout au long de sa vie, mais inquiet pour son frère qui n'aurait pas cette chance, décida de lui porter de nuit une belle part de sa récolte, afin qu'il augmente ses réserves pour ses vieux jours. Au même moment, le frère célibataire, estimant que, étant seul, il n'avait pas autant de besoins que son frère, chargé d'une nombreuse famille, et il décida de lui porter cette nuit-là une belle part de sa récolte, afin qu'il nourrisse tous les siens plus aisément. C'est ainsi que dans une même nuit, les deux frères se rencontrèrent, chacun donnant à l'autre une part de sa propre récolte. Quand Dieu vit cela, conclut le rabbin, il dit « Là où les deux frères se sont rencontrés, c'est là que mon temple sera construit. » Oui, la fraternité est concrète. Elle est même d'autant plus effective qu'elle est ouverte aux autres, à ceux qui n'appartiennent pas forcément au groupe chrétien et de façon privilégiée à ceux dont la dignité est reconnue avec peine, voire refusée. Tout cela précisément vers lesquels Jésus, au moment d'inaugurer sa mission, se dit consacré et envoyé par l'Esprit de Dieu pour témoigner de la proximité et de la tendresse du Père, porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. C'est bien dans cet esprit que nous étions 70 du diocèse à participer en mai dernier à Lourdes au rassemblement Diaconia 2013 « Osons la fraternité ». C'est animé par ce même esprit qu'il nous faut poursuivre personnellement et en communauté. Il s'agit de vivre ce va-et-vient permanent entre les gestes de la prière et les gestes de la charité, sans jamais séparer les actes qui révèlent le don de Dieu et les actes qui expriment le service des hommes. Nous ne pouvons oublier que la fraternité dont Jésus à poser les fondements ne se réalise pas dans les nuages. Elle passe par les pieds de ses disciples qu'il lave, elle passe par le pain qu'il prend dans ses mains et qu'il rompt. Dans la continuité de Diaconia 2013, je voudrais rendre grâce pour l'initiative des conférences de carême qui, cette année, ont attiré notre attention sur des réalités précisément où la fraternité se trouve mise à l'épreuve. Il y était question à chaque fois de situations difficiles à vivre, qu'il s'agisse de situations de rupture et d'échec dans les couples, du handicap et de la maladie mentale au sein d'une famille, de l'approche de la mort pour un parent, un ami, ou encore de l'afflux et de la présence dérangeante de migrants et de réfugiés parmi nous. Ces quatre conférences nous ont valu de merveilleux témoignages. Témoignages de foi en la force de la résurrection au milieu des épreuves à traverser. Témoignages d'une vie plus forte que toutes les formes de mort auxquelles nous sommes confrontés. Témoignages riches d'espérance et de fraternité chrétienne. Frères et sœurs, si la fraternité est bien le nom propre de l'Église, alors entrons plus avant dans cet ensemble vivant qu'est le corps du Christ, avec tout ce qui fait nos diversités, comme le manifeste la célébration de ce jour. Entrons dans cet ensemble vivant qu'est le peuple de Dieu, où l'on est heureux de se saluer, de s'accueillir, de se reconnaître comme les membres d'un même corps, comme les frères d'une même fratrie, avec le désir de se porter mutuellement les uns les autres, de se réconforter dans les épreuves et de s'encourager dans le meilleur de ce que nous sommes. Pour cela, laissons une fois pour toutes nos rêves d'une fraternité idéale, avec ce que cela implique toujours d'insatisfaction de n'être pas reconnu à notre juste valeur, ou à l'inverse, de critiques stériles sur les failles et les manquements des autres. Quand nous sommes entrés dans cette cathédrale, personne, heureusement, ne nous a demandé de remplir une fiche du parfait et impeccable chrétien. Alors, quand nous nous disperserons de nouveau, puissions-nous nous sentir assez libres pour faire de chacune de nos rencontres la rencontre de frères et de sœurs aimés du même Père. Amen.